Session sur le regard du philosophe sur la paternité de Dieu par le père Marie-Dominique Philippe, deuxième conférence, le 6 juillet 2001 à Saint-Jeudard.
Tout a une fin sur la terre. Alors, si le dernier cours, je vous rappelle ce que nous avions touché au dernier cours, ce regard de sagesse. J'y tiens beaucoup, ce regard de sagesse, parce que c'est celui qu'on oublie le plus. Alors que c'est peut-être cela qui nous donnerait le plus, le sens de la fécondité merveilleuse d'une philosophie comme un regard ultime que nous pouvons avoir sur l'homme. Et nous comprendrions comment toute la philosophie, c'est pour connaître ce petit cosmos qui est l'homme. Comme disaient les anciens. C'est vrai, cette réalité si riche et en même temps si pauvre, si fragile. Et toute la philosophie est faite pour comprendre que le monde physique dans lequel nous vivons, ce cosmos si vaste, est pour l'homme. La petite Thérèse hein, de l'enfant Jésus était dans la joie de voir dans le ciel le thé. C'était la joie d'un enfant de Dieu et le philosophe. Et dire la même chose que toutes les étoiles. Et il est bon que le philosophe, de temps en temps, regarde le monde étoilé avec un télescope puissant. Tout est pour l'homme. Et l'homme est pour Dieu. Le philosophe doit pouvoir dire cela. Et une fois qu'il a vu qu'il était pour Dieu, Dieu étant son Père, lui redonne tout. Chaque fois que nous donnons quelque chose au Père, c'est du reste vrai, dans la réalité humaine, chaque fois qu'un enfant veut faire un petit cadeau à son père lui rend le centuple. Et l'enfant astucieux le sait très bien, il donne une petite fleur au père. Et le père remplit son portefeuille. C'est comme ça qu'on fait dans les bonnes maisons. Et dans cette maison que nous vivons, qui est l'univers, chaque fois que nous comprenons que nous sommes faits pour Dieu, Dieu nous dit comme Père, apprends à considérer toutes les créatures, et spécialement l'homme, dans mon regard. Et nous voyons que la créature est nécessairement composée Dieu est absolument simple. C'est le premier attribut que saint Thomas découvre à l'égard de Dieu. C'est la première manière, et donc la manière la plus caractéristique de Dieu, c'est que Dieu est simple, infiniment simple. Aucune composition, donc aucune analyse possible. La logique, l'esprit scientifique qui aime d'analyser, ne peut rien dire de Dieu. Il est simple. Le microscope le plus avancé, le plus fort, ne peut rien nous dire sur Dieu. Dieu échappe à toute connaissance scientifique, analytique. Il est simple. Donc, je ne peux que le contempler. L'amour est dans mon intelligence, la rendant contemplative, peut dire quelque chose. En restant toujours dans l'admiration. Si Dieu est simple, là, l'homme, créature, est complexe. Et la première complexité, c'est la vie et l'être. C'est la première complexité. Elle est fameuse, celle-là, hein. Notre être substantiel, notre être personnel et notre vie. Notre vie est complexe, très complexe. Personne n'a une vie aussi complexe que celle de l'homme. Et son être lui donne son unité. Il y a toujours en nous une soif terrible de simplicité et une exigence très forte au niveau de la vie, d'une complexité. Et c'est toujours ce que l'artiste sentira. Il a pour son intuition une vision simple et dans la réalisation une complexité qui risque de détruire cette simplicité. Elle est forcée, cette complexité. Mais elle doit être sous l'emprise de la simplicité. La seconde complexité de l'homme, on ne va pas les voir toutes, hein. Ce serait trop long, mais ce serait très intéressant. On recommencerait. La seconde complexité dans l'homme, c'est celle de l'intelligence. Dieu est simple dans son intelligence. C'est pour ça qu'on ne le comprend pas toujours. Parce que c'est tellement simple. Et nous, notre intelligence n'est pas substantielle. Les platoniciens voudraient que notre intelligence soit substantielle. Et tous les ontologistes voudraient que notre intelligence soit substantielle. Malebranche, Hegel. Notre intelligence est participée. Et donc notre intelligence, elle est reçue dans mon âme. Elle est une puissance. Elle tend à la simplicité. C'est une chose très curieuse, cette fois qu'on a noté que les premières œuvres de saint Thomas, par exemple, son commentaire des sentences, quand saint Thomas avait 24 ans, 25 ans, il a un langage beaucoup plus complexe. Et dans la Somme, 20 ans après, un langage beaucoup plus simple. Le signe que son intelligence s'est approfondie, et en s'approfondissant, elle s'est simplifiée. Le signe que son intelligence s'est approfondie, et en s'approfondissant, elle s'est simplifiée. Et c'est vrai, notre intelligence, au début, quand elle veut traiter un sujet, elle le décrit. Et elle le décrit de multiples façons. Parce que toute description a des regards différents. Quand vous voulez décrire une cathédrale, vous avez des points de vue multiples et divers. Vous ne la saisissez pas d'un seul coup. Notre intelligence qui cherche, elle analyse en cherchant les diverses causalités. Et notre intelligence, quand elle contemple, retrouve une certaine simplicité. Elle cherche une certaine simplicité. Notre intelligence n'est pas substantielle. C'est une faculté, une puissance. C'est un accident au point de vue de l'être. Elle n'est pas substantielle, elle n'est pas première dans l'ordre de l'être. Elle est seconde, toujours. Et par le fait même qu'elle est seconde, elle est en elle-même complexe. Et vous aurez l'intelligence qui appréhende, l'intelligence qui juge, l'intelligence qui raisonne. Elle a trois formes différentes d'intelligence. Une intelligence qui appréhende, on est intuitif. Il y a des gens intuitifs. Et ça aide beaucoup. C'est une forme d'intelligence. Il y a une intelligence qui discerne. Elle juge. C'est pour montrer que le ciel a une certaine puissance, voyez. Et les orages cette année-ci ont une force étonnante. Et on est sur des lieux qui sont toujours orageux, à cause de la Loire. Et comme on a un clocher pointu, il attire la foudre. Là, si vous voulez être spectateur d'un orage, venez ici. Pas ici, dehors. Donc, notre intelligence, elle est à la friande. On connaît. Notre intelligence discerne. Notre intelligence raisonne. Trois formes. Une seule intelligence et trois formes d'intelligence. Et chacun d'entre nous, on est incliné vers l'appréhension ou vers le jugement ou vers le raisonnement. Il y a des gens qui raisonnent indéfiniment. Ils raisonnent tout le temps. Il y a des gens qui donnent des jugements implacables. Après eux, on n'a plus le droit de parler. C'est magistral. Il y a des gens intuitifs qui appréhendent merveilleusement, qui vous donnent des pistes de recherche. Profond d'intelligence. Mon intelligence humaine est une intelligence qui est intelligence. Et elle est intelligence quand elle dépasse l'appréhension, le discernement, le raisonnement, et qu'elle arrive à saisir ce qui est. C'est bien dans un jugement. Et certains diront l'intuition de l'être. D'autres diront le jugement d'existence. C'est plus que cela. C'est l'intelligence analogique. L'intelligence scientifique, mathématique, est une intelligence univoque. C'est une intelligence qui reste toujours une animale. Quand je dis homme, tandis que quand je dis être, l'être se dit de multiples façons. Je vois tout de suite la diversité dans l'unité. Et l'autre, je vois l'unité, et dans l'unité, je vois la diversité. C'est deux formes totales différentes d'intelligence. Regardez ça dans les discussions, c'est très amusant. Quand on peut laisser les gens discuter, se mettre un peu en arrière. On voit très bien les formes différentes d'intelligence, les intelligences analogiques. Ils voient le divers et dans le divers l'unité. Les intelligences systématiques, ils voient tout dans l'unité et dans l'unité la division. Intéressant de voir, c'est que l'intelligence qui par elle-même demande être simple, en nous, elle est complexe. Et je peux comprendre que mon intelligence abstraite, et c'est à cause de cette abstraction qu'elle est multiple. J'abstrais pour connaître l'universel. Cette abstraction et dépassé dans la connaissance du singulier. Et mon intelligence raisonne, démontre. Je voudrais terminer la retraite, la session, par le point de vue théologique. On n'en a pas eu hier. Je voudrais vous montrer, au point de vue théologique, que le gouvernement de Dieu sur nous est paternel, j'allais dire super paternel, radicalement, fondamentalement. Dieu est père de mon intelligence et de la croissance de mon intelligence et de la croissance de mon amour. Au point de vue surnaturel, au point de vue chrétien, Dieu me gouverne en se servant de l'humanité sainte du Christ, l'agneau de Dieu. Il me gouverne paternellement par Jésus, par le cœur sacerdotal du Christ. Et Jésus me gouverne comme le bon pasteur. Il est le bon pasteur qui gouverne ses brebis. Et il nous montre le caractère du bon pasteur. C'est qu'il connaît ses brebis et que ses brebis le connaissent. Et les brebis discerneront tout de suite la voix du bon pasteur et la voix du mercenaire. C'est très important, ça. Nous sommes conduits en tant que chrétiens par Jésus. Le Père a remis tout pouvoir à son Fils, et c'est son Fils qui nous a sauvés. Et son Fils nous dit que lui-même, il est le bon pasteur. Et donc, Jésus nous conduit, nous gouverne comme le bon pasteur qui connaît ses brebis et que ses brebis connaissent. Et il nous fait comprendre que ce gouvernement du bon pasteur se réalise dans la lutte. Il y a des mercenaires, il y a des mauvais pasteurs, et que les brebis connaissent la voix du bon pasteur. Et ils savent tout de suite discerner la voix du mercenaire et la voix du bon pasteur. Ils discernent tout de suite la voix du bon pasteur. Et le bon pasteur mène ses brebis dans des grands pâturages pour qu'elles puissent avoir la nourriture nécessaire. Et ce bon pasteur a une tendresse spéciale pour les brebis malade, infirme. Il les soigne d'une manière toute spéciale. Il les porte sur son épaule. Il a une miséricorde vis-à-vis de ses brebis. Et il le dit avec beaucoup de force, l'évangile d'aujourd'hui. Il est venu pour les brebis malades. Il n'a pas besoin de s'occuper des brebis qui vont bien. Mais il n'hésite pas de quitter toutes les brebis qui vont bien pour s'occuper de la brebis malade. Vous voyez ? Quelle différence y a-t-il ? Ça, le théologien se pose la question. Quelle différence y a-t-il entre un gouvernement paternel et ce que Jésus lui-même nous dit, le gouvernement du bon pasteur. C'est important à regarder ça. Ça, le philosophe n'en dit rien, puisqu'il s'agit de la vie chrétienne. Le philosophe du bon pasteur, quelle est sa caractéristique ? C'est qu'il s'arrête aux brebis pauvres, aux brebis malades. Et il semble même qu'il oublie facilement toutes les brebis qui vont bien pour les brebis qui souffrent. On dit que le Père fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Mais on ne montre pas cette miséricorde du Père, toute spéciale, pour les infirmes. Cette obéissance du Père, elle implique l'autorité, elle implique une très grande douceur, une très grande bonté, mais elle ne va pas jusqu'à dire « le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis ». Celui qui gouverne les brebis comme bon pasteur s'efface complètement pour ses brebis. Le bon pasteur s'efface complètement pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Et c'est ça le caractère particulier du gouvernant du bon pasteur. C'est qu'il a une attitude de miséricorde vis-à-vis des brebis malades très particulière. Il va jusqu'à dire qu'il donne sa vie pour ses brebis. Et nous le voyons, Jésus est mort comme bon pasteur pour nous. Et son gouvernement auprès de nous se fait à travers le mystère de l'Eucharistie. Et le mystère de l'Eucharistie, c'est le don du corps et du sang du Christ. Le corps. C'est cela qui caractérise le gouvernement du bon pasteur. Voyez qu'il y a dans ce gouvernement une modalité, un caractère extrême. Donner sa vie pour ses brebis, donner son corps et son sang pour les nourrir. C'est vraiment celui qui s'efface complètement. Le bon pasteur, c'est celui qui lave les pieds de ses brebis, de ses apôtres. Le geste du Christ à l'institution de l'Eucharistie, qui est le geste de l'esclave. Il fait les gestes de l'esclave. Tellement il est au service de ses brebis. C'est donc bien ce caractère de mise à l'épreuve, mise au service de ses brebis. Le gouvernement du Père est aussi une mise complète au service des brebis. Mais il n'est pas explicité par le point de vue de l'offrande de sa vie. On dira, le Père aime tellement ses enfants qu'il a donné son Fils unique à la croix. Alors, vous voyez, le caractère propre du gouvernement du Père, c'est d'envoyer son Fils et de donner son Fils qui aille jusqu'à la croix. Le caractère propre du bon pasteur, c'est d'être lui-même celui qui se donne. Et les deux se rejoignent. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Et donc, le gouvernement du bon pasteur n'exclut en rien le gouvernement du Père. C'est le gouvernement du Père pour nous, auprès de nous. Ce gouvernement du bon pasteur réalise pour nous le gouvernement du Père. Il va jusque-là. Précise. Le gouvernement du bon pasteur, le gouvernement du Fils, consiste à donner à ses brebis la nourriture, la parole de Dieu, à donner lui-même comme nourriture, comme pain et comme vin. Pour montrer que c'est lui-même qui se donne, c'est lui-même qui réalise cette chose étonnante. il ne peut pas aller plus loin. Donner sa parole, donner ses secrets, donner son cœur, sa vie. Donnant sa vie, son fils, l'acte unique. Si le Père donne son fils en nourriture, le Fils se donne lui-même. Il se donne donc en parallèle. Le gouvernement du Fils vient achever le gouvernement du Père. Et le gouvernement du Fils nous donne Marie comme reine et comme mère. Et ce gouvernement de Marie, comme reine et comme mère, vient constamment nous apprendre à voir ce réalisme divin du gouvernement de Jésus sur nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand avis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa mère comme mère. Je crois qu'il faut voir à travers tous ces symbolismes le réalisme très fort de ce gouvernement de Jésus sur nous. Par la parole, par l'Eucharistie. Il nous nourrit par la parole et nous faisons œuvre commune avec Jésus en faisant de la théologie. Œuvre commune avec Jésus. Et cette œuvre commune s'achève toute vers la vision béatifique. Et la vision béatifique est la récompense particulière pour tous ceux qui ont reçu la grâce du baptême, de la confirmation et du sacerdoce. Est une participation au mystère de l'union hypostatique. Le mystère union hypostatique, c'est le Verbe de Dieu qui assume la nature humaine dans une unité de sa personne. Vous voyez, comme c'est important d'étudier philosophiquement comment le Père nous conduit. Comme c'est important de bien distinguer le gouvernement de Dieu à l'égard de l'univers, le gouvernement du Père à l'égard de notre grâce sanctifiante. Pour bien comprendre que nous sommes gouvernés paternellement. Alors, quelle distinction pouvons-nous faire entre gouvernement politique et un gouvernement paternel ? Le gouvernement politique se fait à partir de la prudence. L'homme prudent, au point de vue politique, doit regarder le bien commun. Le bien personnel, le politique, doit le respecter. Parce que le bien politique regarde universellement le bien commun, qui permet au bien personnel, à la finalité de pouvoir s'épanouir pour chaque personne. Mais le gouvernement politique ne regarde pas directement et immédiatement le bien personnel, la finalité personnelle. Et c'est vrai, la loi que le gouvernement politique émet avec le Parlement, cette loi regarde, devrait regarder le bien commun et non pas le bien personnel. Le bien personnel, l'homme politique doit le défendre, le disposer, mais il ne veut pas regarder immédiatement le bien personnel, la contemplation. Et les systèmes totalitaires ramènent tout bien personnel au bien commun. Alors on a des systèmes totalitaires qui ne regardent que le bien commun. On en a vu. Le système communiste ou le système socialiste communisant regarde avant tout le bien commun, respecte le bien personnel et quelquefois ne le respecte absolument pas, ramène tout citoyen au citoyen du bien commun. Vous voyez, c'est un gouvernement diamétralement opposé au gouvernement divin, qui est personnel, qui est pour la finalité personnelle. Dieu regarde bien le bien commun de l'Église, le bien commun de la famille. Et bien commun, c'est celui que nous voyons à travers l'humanité, tandis que le bien personnel, c'est celui que nous regardons à partir de chaque personne. Le gouvernement divin est donc un gouvernement qui regarde en premier lieu la finalité personnelle de chaque chrétien. Jésus est mort pour chaque chrétien, personnellement. Et il nous donne sa grâce comme un bien personnel pour pouvoir réaliser ce bien personnel autant qu'il peut sur la terre, en respectant le bien commun. Mais le bien commun, au point de vue surnaturel, n'est jamais totalitaire. Parce que déjà, au point de vue humain, le bien commun ne peut pas être totalitaire. Il est pour tel ou tel. Mais là encore, toujours ordonné vers le point de vue de chaque personne qu'on doit respecter. Il faut ajouter le gouvernement maternel de Marie. Quand vous regardez bien l'évangile de Jean à Cana, le début de la vie apostolique de Jésus, le premier signe de sa vie apostolique, vous voyez cette chose très particulière, qu'on est dans un climat de repas de noces. Jésus n'avait pas l'intention de commencer sa vie apostolique là. Il le dit à Marie, « Mon heure n'est pas encore venue. » Et tant que l'heure n'est pas encore venue, Jésus ne commence pas sa vie apostolique publique. Donc, il suit le règlement de vie, la vie apostolique de Jésus commence avec la transformation de l'eau en vin. Et ce commencement de la vie apostolique de Jésus se réalise grâce à la prière de Marie. Ils n'ont plus de vin. Et on le comprend quand le témoin dit, quand Jésus lui-même dit, mon heure n'est pas encore venue, et qu'il commence par Marie et à cause d'elle, qu'il commence à transformer l'eau en vin. Dans cet acte d'obéissance. Donc, Marie intervient dans le gouvernement de Jésus comme reine, femme. Jésus dit à Marie, femme, pas mère. C'est la première fois que dans l'évangile, on voit que Jésus attribue à Marie cette appellation femme. Le mot femme a un sens biblique alors. La femme, c'est la socia de l'homme. C'est celle qui est l'associée de l'homme. Celle qui achève sa mission. Marie est celle qui achève maternellement et celle qui dispose dans le gouvernement du bon pasteur. Marie intervient pour disposer, pour achever. C'est le rôle de la mère. La mère dispose. Elle hâte, la hâte de la mère. Elle dispose et bien souvent, elle veut que tout commence avant l'heure. Et la mère achève. Tout s'achève dans le cœur maternel de Marie. Et tout cela se réalise par le don du Paraclet qui nous est donné pour que en tant que tout s'achève par Marie et tout commence par Marie. Parce que le gouvernement du Christ est un gouvernement non pas politique, mais familial. Il y a le père et la mère. Le gouvernement paternel regarde en premier lieu la finalité. Et regarde en second lieu le bien commun. Le bien commun, il l'intéresse, mais il n'est jamais premier. C'est merveilleux pour bien comprendre l'Église. L'Église, facilement, on dirait, c'est le bien commun. Elle est catholique pour tous, oui, mais c'est le bien commun dans ce sens que ce bien commun est en vue du bien personnel. Il est pour le personnel, pour le bien de tous, et c'est un bien qui s'efface. Le bien temporel, le bien personnel, je veux dire. Le bien personnel dépasse tout. C'est la vision béatifique. C'est le bonheur de la vision béatifique. Vous voyez comment ce regard philosophique sur le gouvernement paternel de Dieu, sur notre intelligence, nous aide à mieux distinguer dans l'Église, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, la place de Jésus comme victime. Et comment nous pouvons comprendre avec plus d'acuité, d'une façon plus précise, ce que Jésus nous dit d'une façon symbolique, le gouvernement du bon pasteur. Le gouvernement du bon pasteur à l'égard de l'Église et par l'Église sur le monde entier. Ce gouvernement du bon pasteur est toujours finalisé par le gouvernement personnel de chacun d'entre nous. Nous allons terminer par en chantant le Salve Regina, si vous voulez bien. Je vous remercie de l'écoute, parce que dans un auditoire comme celui-ci, on voit tout, on saisit tout. Et je vous assure que la communauté des sœurs et des frères continueront de prier pour vous, puisque nous avons subi ensemble le labeur de la session, l'intérêt de la session, et que l'auditoire, quand il écoute, permet à celui qui doit parler de pouvoir aller le plus loin possible.